L'histoire d'abord de ce livre qui en effet a pris une dizaine d'années de travaux. Entre-temps, ne vous inquiétez pas, j'avais fait autre chose, mais j'étais toujours obnubilé par cette question. Pourquoi, du jour au lendemain, pays, justement après 88, on a parlé tout à l'heure avec une amie de 1988, où il y avait ces émeutes, octobre, et qui, pour nous, pour ma génération, à l'époque j'étais beaucoup plus jeune, ça avait ouvert des horizons, on commençait à espérer, on pouvait faire des choses, et subitement, ce qui n'était pas du tout prévisible pour nous, à savoir d'abord la violence, mais que le débonnaire voisin devienne un tueur, par exemple. J'avais des étudiants qui. J'enseignais à l'époque, là, en Algérie, j'avais des étudiants. Parmi ces étudiants-là, il y a eu des émirs à qui je tournais le dos, tableau, pour leur enseigner. Donc, notamment un émir de la première heure, à Abel Abbès. Donc, ça me taraudait beaucoup. J'avais perdu beaucoup d'amis, évidemment, des collègues, puisqu'à un moment donné, il y a eu des assassinats d'intellectuels pour X raisons. Pour leur position ou simplement parce qu'ils étaient emblématiques d'une situation. Donc les raisons premières, c'est d'abord d'essayer de mettre de l'ordre dans ce qui semblait n'être que du chaos. C'est pourquoi ça revient dans ce titre, les lois du chaos. Il y a un ordre à débusquer dans ce qui paraissait chaotique. Et puis, bien sûr, c'était une sorte de clin d'œil aux physiciens qui, eux, savent ce que c'est les chaos et de ces liquides qui sont composés de particules qui fonctionnent selon des ordres, mais le tout forme quelque chose qui est incompréhensible, insaisissable. Et ça a duré, donc, je disais, à peu près une dizaine d'années. Et la question qui me taraudait, c'était comment aborder la violence, au-delà justement des approches qui privilégiaient l'angle politique. Parce que c'était souvent cela, c'était d'abord facile, ensuite c'était parce qu'on était des citoyens et on accusait des projets sociaux qui ne fonctionnaient pas, ou des propositions de politiques qui ne convenaient pas à notre vision du monde. Et je me suis dit, comment l'aborder? Si je l'aborde du point de vue justement du politique, c'était ajouter encore une interprétation à des interprétations qui étaient là. Et il y avait d'autres explications qui étaient sur le terrain, par exemple, type économiste. L'Algérie n'allait pas bien parce que il y avait la chute du prix du pétrole en 88 et que la rente qui faisait vivre l'Algérie avec l'assistanat ne permettait plus cela. Et par conséquent, un contrat était rompu entre le pouvoir et la société. Et donc, voilà, ça se transformait en révolte. Il y avait des explications sociales parce que le projet de société était entre les gens qui voulaient revenir à une sorte d'initiale, c'est-à-dire s'ancrer dans la religion, dans une sorte de tropisme oriental, revenir à l'Orient, à une origine imaginée en tout cas. Et ceux qui voulaient se moderniser avec justement derrière cet emblème qu'est l'Occident. Donc ça pouvait être aussi des modèles donc, de société, modèles culturels. Il y avait aussi des interprétations, notamment à partir de l'autre rive de la Méditerranée, qui était tout à fait clinique et psychologique. L'Algérien, par atavisme, est un violent. On le connaît dans l'histoire, etc. Et donc c'est normal. C'est encore une fois une récurrence de l'histoire, oubliant que l'Amérique est scandée par la violence, que la violence est dans les rues de la France dans ses mémoires et dans ses lieux de mémoire pétrifiés, dans les monuments, etc., que toutes les sociétés, justement, fondent quelquefois leur être ensemble sur des passages ou des séquences violentes. Je voulais essayer, donc j'ai essayé de me distancier de toutes ces approches qui n'étaient pas toutes mauvaises, mais qui étaient, à mon avis, simplistes ou simplifiaient les choses. Ça pouvait satisfaire sur le moment, mais ne faisait pas avancer la réflexion. J'ai voulu aller à une sorte d'archéologie, où j'entends arché au sens de fondement, de base, qui structure des expressions, qui, elles, évoluent en fonction des contextes, bien sûr, mais de revenir à ce qui est fondamental, ce qui est donc une sorte de socle sur lequel on se fondait, parce que si aujourd'hui encore, c'est... On peut se demander, malgré toute cette violence, qu'est-ce qui lie les gens? Pourquoi y a-t-il encore un lien social? Pourquoi les gens, même s'ils décrivent leur pays, continuent à l'aimer ou avec passion, ou violemment? Pourquoi ils s'identifient? Pourquoi ils continuent à vivre sur les lieux de massacres collectifs atroces et autres? Donc, je voulais dire, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il a... pas produit, mais informé. Qu'est-ce qui lui avait donné forme? Alors, entre autres réponses que j'ai pu trouver, c'était de me dire, comme le disait l'anthropologue américain Clifford Geertz, il disait que répondre un peu quand on voit un phénomène social et on reprend de type violence, et on va dire que c'est de la psychopathologie ou c'est un dérèglement, etc. C'est un peu... Il y a de la paresse dans ça, c'est-à-dire de dire comme ça, on évacue le problème. En disant que si les gens, justement, deviennent violents, il faudrait que quelque chose puisse les mouvoir, quelque chose de fort puisse les pousser à le faire. Et il avance une catégorie qui m'a semblé heuristique, c'était celle du centre actif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on adhère ensemble à un centre actif qui devienne non seulement un moteur, mais en même temps un enjeu dans une société pour lequel on peut se battre. Bon, des centres actifs multiples qu'on essaye justement de cristalliser dans des lieux de mémoire, pour parler comme Nora. Brûler un drapeau, ce n'est qu'un drapeau, c'est que du tissu, c'est avec des couleurs. Mais pourtant... ça cristallise quelque chose, ça signifie quelque chose pour les gens, et ça renvoie, ça symbolise une histoire, et ça renvoie justement à un centre qui est actif pour les gens. Là, en l'occurrence, quand on observe cette violence, sur quelle toile de fond elle se déroule, on constate deux éléments qui sont importants. D'abord, c'est une nation en constitution, mais qui n'est pas donc encore achevé, mais qui est là, et qui brandit une dimension pour elle qui est importante, qui constitue son centre actif, qui est la religion, l'islam. Donc il y a l'islam et la nation, mais cette nation-là, ce qui la fonde en premier, en Algérie, on le sait, c'est la guerre de libération. Tant et si bien que les gens qui ont fait la guerre, la plus ou moins grande proximité de la guerre, procurent des situations rentières. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre devenir un président. Aucun président ne l'est devenu s'il n'avait pas auparavant participé à la guerre. Même s'il a 16 ans, on va lui confisquer. Confectionner un CV disant qu'à 16 ans, il a pris le maquis, etc. Ou alors, il est fils de Shahid, c'est-à-dire de fils d'un martyr, qui a fait la guerre. Ou alors, il est fils de Moujahid. Et même les opposants, à commencer par les islamistes, les deux figures symboliques, c'est Ali Belhaj, le jeune, parce qu'il symbolise la jeunesse, et Abbessi Medani. Eh ben, le premier, c'est un fils de Shahid. Il se revendique comme tel pour parler. Et le second, c'est un ancien Moudjahid. C'est quelqu'un qui a fait la guerre. Sans cela, il aurait été discrédité. Et ici, on connaît bien ce problème-là. Dans le discours algérien, dans le discours officiel algérien, on puisse discréditer quelqu'un, il suffit de l'accuser de Harki, d'avoir été de l'autre côté. Il n'est plus algérien. Alors, ça, c'est une donnée importante pour comprendre la suite. Ça veut dire que l'enjeu était l'être ensemble, la nation, qui a été fondée par une guerre de libération, qui a été menée dans un esprit de jihad. Jihad, ça veut dire un combat, mais dans un esprit religieux. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons un ministère des Moudjahidines. Il aurait pu s'appeler, en arabe, il y a l'équivalent de combattant, on peut dire, ministère des Moukatilines ou Mouharibines. Harb, c'est la guerre, mais ce n'est pas ça. C'est ministère des Moudjahidines. On a un organe officiel de l'État, c'est le Moujahid. Le journal s'appelle le Moujahid. Il aurait pu s'appeler le Mouharib ou le Moukatil ou autre, mais s'il s'appelle le Moujahid, c'est parce que la guerre se déroulait aussi sous ce label-là. Ça veut dire que c'était un jihad contre des mécréants. Donc, dès l'origine, j'allais dire, la ressource religieuse a été mobilisée, a été constitutive du politique. Elle est consubstantielle du politique. Ce n'est pas l'opposition qui l'a inventée. Le pouvoir en a usé et abusé. Et même dans ses heures de gloire, quand on expliquait le socialisme, on l'expliquait dans les mosquées. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et je peux remonter plus loin, je peux aller à l'émir Abdelkader, c'est un homme politique que tout le monde connaît. Et pourtant, c'est d'abord un chef religieux qui vient d'une confrérie. On pourra remonter plus loin aux Almoravides, aux Almohades, etc. À chaque fois, le politique a été mené à partir d'un centre actif qui est le religieux. Et la guerre de libération était une phase, une des phases qui a pu aboutir à l'indépendance, mais qui a été menée à partir du religieux. Donc, rien d'étonnant de voir une opposition chevaucher ce cheval-là, parce que ça a été déjà fait avant. Et le paradoxe, par exemple, les Européens ou les non-musulmans ou les chrétiens qui ont épousé la cause et qui ont défendu la cause de la libération en Algérie, au moment de l'indépendance, les porteurs de valises, surtout ceux qui sont restés en Algérie, ont pu acquérir cette carte importante en Algérie, qui s'appelle la carte de Moujahid. Ils ne sont pas musulmans, mais ils sont des Moujahides. C'est-à-dire la catégorie est passée par un glissement sémantique, elle est passée du religieux au politique. C'est devenu la catégorie qui désigne ceux qui se sont sacrifiés pour la construction, la fondation de cet État-là. On peut aussi parler du mouvement des réformistes, d'Ibn Badis. Avant, c'est lui qui va donner, ou en tout cas galvaniser l'idéologie de la libération, puisqu'il va lui donner des instruments, entre autres ces trois composantes que l'Algérie indépendante va essayer de mettre en place, de concrétiser, d'appliquer, à savoir la langue arabe, l'islam, et la Oumma, l'appartenance à la communauté musulmane. C'est-à-dire ce sont des catégories qui ont été forgées déjà dans les années 20-30, et que la guerre de libération va essayer de mettre en application. Alors, du coup, il y a un des chapitres dans ce livre où j'essaie de m'apesantir plus longtemps sur cette guerre comme fondation. C'est-à-dire la guerre de libération nationale qui était un djihad devient un référent fondateur pour l'être ensemble. Ça veut dire on est de tel ou tel côté en fonction de la position qu'on a prise lors de cette guerre. Et on est bon citoyen ou mauvais citoyen en fonction de ce fait-là. Si on a fait la guerre, on n'a pas fait la guerre. Donc, du coup, c'est pas seulement des mots. C'est aujourd'hui encore, vous savez, qu'il y a en Algérie le renouvellement, par exemple, par la force, par la logique de la démographie. Les anciens partent, il y a des jeunes, il faut les remplacer. Et ben, où on va les puiser? Puiser ce renouvellement va se passer dans une catégorie spécifique qui est appelée la famille révolutionnaire. Famille révolutionnaire, parce qu'on est fils d'anciens combattants, d'anciens moujahides, ou de martyrs, de shahides. Et donc, à ce titre, on a droit d'abord à des privilèges au moment de sa formation. Si on est étudiant, on a des bourses. Mais surtout au moment d'être coopté pour occuper des postes, un poste quelconque. Il y a une sorte de hiérarchie où on peut classer les gens qui ont du sang bleu et les autres. C'est ceux qui, par leur sang, et ça c'est comme si le sang coulait dans leurs veines, le sang de la révolution, le sang de c'est pas qu'une métaphore, puisque c'est une famille réelle. Elle est faite à partir de la reproduction généalogique. Et on l'a appelée famille révolutionnaire parce qu'ils auraient quelque chose de naturel qui les construirait comme étant des fidèles, des purs, par rapport aux autres, mais dont on doute, parce qu'ils seraient nés d'un sang qui n'est pas... qui n'a pas été probant au moment voulu. Je rappelle ça parce que quand on est sur le terrain en Algérie ou quand on est un simple citoyen, on a fini par l'admettre. C'est-à-dire, on dit les enfants de Shuhada, comme le disait un copain, ces enfants, ils ont quelquefois 60 ans, 55 ans, mais c'est un enfant de Shahid. Et donc, d'abord, il prétend à des privilèges, comme si son père n'a pas réussi à lui offrir de telles choses. Donc, l'État l'a fait, mais il continue à être un enfant qui réclame à son père, qui est l'État cette fois-ci, des choses, même à 60 ans. Donc, cette situation n'est pas que matérielle aujourd'hui, pour changer une voiture, pour importer, pour ouvrir un commerce, pour avoir des prêts dans la banque, etc. Tout ça passe par... ce statut-là, c'est un statut de privilégié. Mais plus grave, c'est qu'il donne droit, c'est un marchepied vers le statut politique. C'est-à-dire on peut mobiliser des gens parce que leurs parents, on les nomme ministres ou députés ou sénateurs parce que leurs parents ont fait la guerre. C'est pourquoi j'ai dit la guerre est fondatrice, c'est une fondation d'un État, et c'est dans l'imaginaire, même si la population qui a fait la guerre est de plus en plus rare par les lois démographiques, l'archétype est posé, ou le référent est posé. Ça, c'est le deuxième point que j'essayais de soulever. Troisième point, c'était ce débat, parce que quand on entend le discours de l'État, quand on entend le discours officiel, c'est un discours sociétal. C'est-à-dire, moi, je suis le produit de grandes réformes. Sinon, je n'aurais pas étudié. L'État a ouvert l'université à tout le monde, a ouvert les usines. On a voulu, à l'époque, développé au point où on a ignoré les structures traditionnelles, paysannes, etc. C'était d'abord l'industrie industrialisante. C'est le modèle de Gérard de Bernis. Et puis, c'était donc former un homme nouveau, plus, à côté, créer l'ouvrier agricole. Le paysan, c'est pas ça. C'est l'ouvrier qui a une conscience, etc. Donc, toute la littérature de l'époque, la littérature socialiste, communiste, qui sonnait très moderne. Très moderne, on voulait créer des espaces, un espace sociétal, mais dans la réalité, dans le fonctionnement concret des choses, il y avait un hiatus ou un paradoxe, c'est que ce discours-là, qui formait des gens pour occuper des postes, qui créait des usines, qui structurait l'administration, etc., qui se voulait donc un état d'individus et de compétences. Ces compétences-là, on allait les chercher, les retrouver, selon des critères communautaires. C'est-à-dire, c'est le clientélisme, c'est la proximité généalogique, c'est la région. En Algérie, on a parlé beaucoup... On avait beaucoup de slogans sur le BTS, par exemple. On disait le BTS, bon, c'est le béton de terre stabilisé. Donc c'est, mais en même temps, c'est « Batna Tebessa Sukara ». C'est-à-dire c'était des régions, ça, c'est l'armée. Les gens qui tiennent... et récemment, quand Bouteflika devient président, qu'est-ce qu'on va lui reprocher? On va parler du sultanat de Tlemcen, parce qu'il va ramener des gens de Tlemcen. Il va nommer son frère Kombessin, notre frère conseiller, etc. Donc ça continue, je veux dire, même sous des habits très modernes, très ouverts. Mais dans l'armée, on ne le voit pas. C'est la grande muette, mais la grande opaque. Mais en réalité, les recrutements, les promotions se faisaient justement par région, par famille, par... dans les administrations aussi, dans et ce fonctionnement donc qui était communautaire par opposition sociétale. Bon, je vais peut-être expliquer pour faire un peu le pédant, c'est que dans nos approches de sociologues ou d'anthropologues, on pense toujours à ce modèle amené par Tonis, notamment sur le communal, le sociétal. Le communal, c'est quoi? C'est l'affect, c'est le sang, c'est la nature, c'est les gens qui sont proches, presque naturellement proches. C'est le village, quoi. Et la ville, c'est le sociétal, parce que on se rassemble selon les contrats. Si on est là, c'est pas parce qu'on est une famille, c'est parce que on a quelque chose qui nous lie tous, on voudrait comprendre quelque chose, et vous m'écoutez, vous me supportez, vous me subissez, pas parce que je suis de votre famille, mais parce que ce que je dis pourrait vous éclairer pour être d'accord ou pas d'accord avec moi, etc. Donc ça, c'est un autre type de lien. Et donc, quand on est dans la modernité, c'est ça le lien. Le lien, c'est pas parce qu'on est de telle ou telle famille qu'on a telle ou telle place, mais c'est parce qu'on est sur la même longueur d'onde que l'autre, ou parce qu'on l'intéresse, et contractuellement et ponctuellement. Après, fini ce moment, chacun reprend aussi d'autres relations. Alors, ce qui est paradoxal en Algérie, c'est que on est apparemment dans cette démarche où on forme des universitaires, où on a un discours technologique, notamment sous l'ère de Chadli, où le discours était techniciste, où on va essayer de développer, il y a des quotas, les ratios, etc. Mais dans la réalité du fonctionnement, on a fait des enquêtes dans des usines, un ingénieur décède, par exemple, avant de le remplacer par un autre ingénieur, il faut penser à son fils. Donc, il faut d'abord le recruter, etc. Ça, c'est encore moins grave que si on dit qu'il faut recruter l'ingénieur, mais il faut qu'il vienne de l'Est, de telle famille ou telle autre, et même s'il est moins bon que l'ingénieur qui est sur place, etc. ou qu'il vient de l'Ouest. J'ai rien contre l'Est particulièrement. Mais vous aurez compris que je suis de l'Ouest. Mais les gens de l'Est me disent que je fréquente depuis un moment me disent la même chose. Parce qu'ils me disent, ouais, vous, les gens de l'Ouest, vous avez tout. Mais actuellement, c'est vrai, c'est tous les ministres importants et souverains sont de l'Ouest. Les Kabyles aussi. Oui, mais les Kabyles, ils se plaignent beaucoup, mais ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont eu des premiers ministres. Ils ont même fait l'arabisation qu'ils décrivent maintenant. Le ministre qui a arabisé, c'était un Kabyle. L'autre approche que j'ai essayé de mener, c'est dans ma méthode de travail, c'est-à-dire on construit des modèles explicatifs pour essayer d'approcher des situations. Ce que j'entendais dans cette violence, j'entendais les gens dire qu'on se sacrifiait. Le sacrifice pour nous, anthropologues, qu'on est parce que, qu'est-ce que c'est le sacrifice? C'est sacrifier une partie du tout pour que le reste vive bien. C'est la part maudite, quoi. Part maudite, et parfois cette part maudite, il faut la sacrifier, il faut qu'elle soit parfaite même. C'est-à-dire, les meilleurs qui se sacrifient, quoi. C'est comme quand on sacrifie le mouton ou l'agneau pascal ou autre, qu'il soit parfait parce que c'est un sacrifice qui sauverait le reste. Et d'autant plus que ce sacrifice est dans notre imaginaire. C'est-à-dire, on est culpabilisé. Moi, une fois, je descends chez moi, dans le bled d'où je suis originaire, je suis accueilli parce qu'on a rappelé on voulait nous rendre hommage aux gens qui étaient de ce bled paumé du sud et qui ont pu réussir. Donc, je retrouve des copains et tout. Et je retrouve un ancien moujahid qui s'est sacrifié pour que j'étudie, et il me l'a rappelé, et en me disant, ne vous craignez rien, continuez à étudier, les terroristes, on s'en occupe. C'est-à-dire, vous êtes des enfants, continuez-vous à étudier, et lui, qui a fait ça, c'est son métier, il continue à le faire. Il a oublié qu'entre-temps, il est vieux, qu'il ne peut pas le faire, et qu'on ne connaît rien, etc. Mais il est respecté, parce qu'il est respecté pour ça, il était commissaire politique pour ça. Donc ce sacrifice, on l'a intégré. On n'avait pas de biberon, mais on l'a vu dans le biberon. Mais à côté, les islamistes disaient la même chose. Et les gens qui ont travaillé sur le terrorisme, aussi bien en Algérie qu'en Palestine, notamment avec les kamikazes, peuvent le comprendre parce que c'est parce qu'on ne peut plus vivre ici-bas. Il n'y a plus rien à vivre. Donc, on se sacrifie pour que ceux qui viennent après puissent vivre, puissent mieux vivre. Sinon, ça ne fonctionne pas. Les gens ne sont pas des idiots non plus. Mais ce que je constatais, c'est que ce sacrifice devenait un sacrilège, quelquefois, puisque je ne comprenais pas comment le sacrifice passait par le viol, par exemple. violer quelqu'un, mutiler un corps, etc. Je ne comprenais pas. Donc, si le sacrifice, au début, a été mobilisateur, par la suite, la violence a ses propres logiques. La logique de la violence, c'est la terreur, évidemment, parce qu'il ne s'agit pas, quand on fait la guerre, il ne s'agit pas de tuer tout le monde, il s'agit d'inhiber le maximum. Et pour les inhiber, il faut tout employer, il faut les terroriser. Et si on tue quelqu'un par balle, après ça se banalise, on n'a plus peur des balles, puisqu'il y a des gens qui veulent se sacrifier. Il faut mutiler les corps, il faut couper les têtes, il faut étriper, il faut couper avec des scies, avec des tessons, etc. Et à chaque fois, on invente les méthodes. Au Rwanda, on a découpé des corps pour les jeter dans les chiottes, tirer les chasses, etc. C'est l'homme, c'est un loup pour l'homme, disait quelqu'un, et ça continue. Ce qui est dur, c'est la civilisation. L'animalité, j'allais dire, est presque naturelle. C'est-à-dire, on peut revenir tout de suite. quand il y a panne de sens. Alors, ce que je voulais dire par cette histoire de sacrilège, moi, ce qui m'avait le plus touché, c'était le viol. C'est curieux, c'est plus que la mort, parce que quand j'ai commencé à perdre quelques amis, on a commencé à intégrer le fait qu'on risquait de mourir. Je n'étais pas un héros, je n'étais pas un homme politique, je n'étais pas un militant d'une cause, mais j'avais un comportement, une conduite, une vie qui ne correspondait pas au modèle qui était mis en avant. Et donc, je risquais. Et d'autant plus qu'il y a des amis qui ont pu périr comme ça, parce que ce n'était pas très différent. Alors, quand on commence à se dire, oui, mes remarques au Tchad, l'espérance de vie, c'est 45 ans, 48 ans. Si je meurs, bon, je vais penser que je suis tchadien ou je suis de tel ou tel pays. C'est-à-dire qu'on commence presque à accepter le fait. Et, ou alors, j'ai vu un ami à qui j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il me dit, écoute, les flics font leur boulot, les terroristes font leur boulot, continue à faire le nôtre. C'est-à-dire qu'il faut continuer à écrire, à faire. Et cette... Et j'ai dit, mais comment, avec comment réfléchir sur ces questions-là? C'est-à-dire, comment réfléchir sur des gens qui tuent, quel que soit, vous aurez remarqué que jusqu'à présent, je dis les gens. Je ne vais pas rentrer dans la polémique de qui tue qui, l'État. Moi, ce qui m'intéressait, c'était une société qui se parlait par la violence et par la mort. Alors, et ça suffisait, parce que qu'on accuse les uns ou les autres, c'était pas simple. C'était, ce qui était important, c'est que c'est devenu un langage perceptible par les uns et les autres, et je le montre justement à travers cette histoire de viol. Parce que, contrairement à ce qui a été dit quelquefois, c'est pas des gens qui étaient dans une... dans des frustrations sexuelles, pour aller vite. C'est pas, on viole pas une personne pour tirer un plaisir, j'allais dire, au sens où on l'entend couramment, ou alors c'est un plaisir pervers. Mais c'était un crime de guerre, c'est-à-dire c'était quand on tuait, quand on voulait faire un meurtre économique, c'est-à-dire on voudrait tuer une parentèle, un groupe, une famille, ont violé leur femme, leur fille. Une fille, ça suffisait pour faire des hommes, des parents hommes de cette fille, des femmes. Ce qui était une mort sociale dans un espace viril, macho, etc. Et quelquefois, c'est comme un étudiant, je me rappelle toujours ce qu'il disait de sa sœur, on ne l'a même pas violé, ce qu'il lui dit. Il pleurait en disant ce qu'il est arrivé à ma sœur, c'est, vous rendez compte, on lui a coupé les seins, on les a posés à côté. C'est mutilation, c'est pouvoir triturer le corps, toucher à l'intimité qui est la plus sacralisée. Vous savez que dans l'islam, on raconte que Omar, le calife Omar, le quatrième calife, est rentré en islam parce que un jour il est rentré, il a écouté le Coran et il n'a pas écouté, il a entendu une voix d'homme à côté en train de parler à sa sœur, et cet homme c'était un musulman qui expliquait à sa sœur le Coran, et lui il dit c'est quoi, il rentre, il prend le Coran et pour lui c'est sa sœur qui est avec un homme, il frappe sa sœur. Et quand il voit le sang, il se rend compte que ce n'est pas un homme, parce qu'il a frappé une femme. Il ne frappe pas une femme, il y a la foutoua, comme on dit, l'esprit chevaleresque, on ne frappe pas une femme, etc. Et là, il se rend compte qu'il a fait une gaffe, que ce n'est pas son honneur, il écoute, et c'est la légende, mais c'est très... La légende, c'est comme son nom l'indique, c'est légenda, c'est ce qu'il faut lire. Ce qu'il faut lire, c'est que... La femme n'est pas attaquable, n'est pas dans le combat, et qu'elle a permis à quelqu'un, parce qu'il a fait pour se racheter, donc il va écouter, et c'est comme ça qu'il serait rentré en islam. Or, dans ce cas-là, on n'est plus dans ce code-là. On est dans le code traditionnel, dans le code de l'honneur, qui peut se retrouver aussi bien en Italie, en Sardaigne ou en Corse. Le rapt des femmes, comment attaquer, comment toucher l'autre, toucher le maximum des autres mâles en touchant leur femme. Donc, et souvent, le viol ou la mutilation des corps des femmes était une arme de guerre comme il a été en Yougoslavie, même si ce n'était pas dans les mêmes sens. Parce qu'en Yougoslavie, on tuait pour... On violait pour multiplier. Et là, c'est justement, on tuait pour ne pas faire enfanter. Quand une femme tombait enceinte, on la tuait. Parce qu'elle pourrait enfanter un mécréant. Voilà, ça c'est cette histoire de sacrifice et de sacrilège en passant par, m'avait beaucoup occupé et c'était la figure un peu la plus parlante pour dire que c'est, le meurtre était symbolique, c'est-à-dire au sens de la, symbolisé, pas symbolique, plus que symbolique, mais il était symbolisé, où la femme était le siège de l'honneur et je dis souvent que la femme c'est comme la bouche d'un corps, elle nourrit ce corps, mais c'est par cette bouche-là que peut rentrer le microbe qui peut tuer ce corps. Donc, ça dépend ce qu'on fait. Donc, elle est en même temps un extérieur, mais elle est centrale, elle est le siège de l'honneur, vraiment. Et ça, on le comprend quand on voit aussi bien les opposants que, quelquefois, la répression policière qui, parce qu'on a fait ça, on ramène des femmes de certains terroristes, en tout cas, c'est ce que disent les islamistes ou les terroristes qui ont été arrêtés, en disant qu'on a convoqué leurs femmes devant eux, ou leurs filles, ou leur mère, pour les obliger à parler. Et donc, on les a encore instrumentalisés. Voilà. Donc, c'est une société qui se parle par un code qu'elle partage. Et puis, au début, j'étais comme, bien sûr, comme tout le monde, je parlais à partir de ma posture à moi, et je considérais qu'il y avait deux clans qui se battaient pour des enjeux politiques, mais je ne voyais pas tous ces linéaments, ces sous-bassements. C'est que je n'ai commencé à les voir que quand je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi ? Il y a d'abord eu une gradation, tué par balle, après on a commencé à égorger, parce que la cruauté est importante comme dialogue, puis on a commencé à mutiler, puis on a commencé à violer, etc. Mais ce n'est pas seulement une gradation, parfois c'est aussi concomitant. On fait ça et ça à la fois. Alors je me suis dit, s'il y a plusieurs manières de tuer, il y a plusieurs acteurs. Ça ne peut pas être le même acteur qui fait ça et ça. Bien sûr, il peut, mais c'est, en tout cas, le discours qu'il veut tenir ou le sens qu'il veut donner à son action change. Parce que certaines femmes, on ne les a pas violées, on les a tuées par balle pour ce qu'elles étaient. Elles étaient d'abord des hommes, c'était des flics, c'était des femmes politiques. Elles étaient des hommes, entre guillemets. Donc, on les a tués comme, mais celles qui ont été violées sont souvent celles qui étaient des boucs émissaires, pour parler comme Girard. Et donc, j'ai essayé de voir le profil de ces manières de faire et leur faire correspondre les profils de ces bourreaux, de ces tueurs. Alors, il y a les monstres. J'ai appelé un chapitre « Monstres, rebelles et héros ». Il y a les monstres, il y a les rebelles et héros. Et on part d'abord au début du Mahdi, le Messie, celui, le redresseur de tort, celui qui croit venir pour sauver l'humanité. Et ça, au début, on l'a vu, il y a des illuminés à Belhaj. Si l'islamisme était passé, le numéro 2 aurait été tué, tellement lui, il est dans cette catégorie, cette Savonarole, c'est un cas qui est dans un illuminé. C'est un Mahdi, il veut, le Mahdi, c'est le Messie qui reviendra pour guider l'humanité dans le monde. Il y a après les bandits d'honneur qui veulent venger la société. Qui veulent venger la société parce que la société a failli, parce que l'État a failli. Et ces bandits d'honneur, c'est des Robin des Bois, quoi. C'est des redresseurs de tort. Et parfois, ils ont été poussés, certains ont été poussés dans la logique de la violence. Par exemple, j'ai un frère, il monte au maquis, je ne suis pas d'accord avec lui, mais la police vient le chercher chez moi, il revient de temps en temps, ma mère le cache, c'est normal, c'est son fils, mais s'il a les renseignements, on se rend compte que mon frère est passé, la police contre elle revient, elle ne va pas être très gentille avec ma mère, elle va la molester, etc. Et à ce moment-là, moi, je suis un homme mort socialement, puisque un jeune comme moi a proféré du sang, poussé ma mère, lui a fait des choses qui ne sont pas faisables. Et du coup, je peux me radicaliser, d'autant plus si on m'embête en me demandant de venir signer au commissariat. Donc il y a des gens qui ont été presque poussés malgré eux, et certains qui étaient des bandits d'honneur parce que dans le quartier, cet État, on l'a suffisamment dit, était un État corrompu, un État de clientélisme. Les gens qui étaient là ont aussi profité de leur situation d'agent de l'État pour malmener ou abuser de leur pouvoir vis-à-vis de la société. Et donc, s'il y avait une revanche des gens qui vont se soulever pour tuer tel bonhomme, ou tuer tel flic, ou faire tel ou tel geste. Et puis, il y a la guerre de libération qui est là. Souvent, pour adhérer, pour pouvoir être accepté, même quand on a un idéal, on veut créer l'État islamique, ou on veut destituer un État unique, corrompu, etc., il faut faire un acte qui soit lisible par tous, à savoir, durant la guerre de libération, demander à un lambda de tuer un flic pour monter. Ça veut dire il faut que tu te grilles. Et souvent, le flic, c'est un agent de la circulation. Parce que si tu montes, vu qu'il y a eu la bleuzaille, vous connaissez toute cette histoire de cet intox qui avait circulé au moment où les cadres d'une université en 56 avaient rejoint le maquis, l'État colonial avait dit que c'était nos agents. Et du coup, ils ont été tués par les responsables du maquis. Ils les ont descendus comme étant des gens déjà noyautés. Et pour quand on a en mémoire toute cette histoire-là, la meilleure garantie, c'est de se brûler, de se griller. Donc, se griller, c'est de faire un acte. Et ce qui explique souvent qu'un agent qui fait la circulation, que tout le monde connaît, est abattu. On lui prend son arme, parce que l'arme, on vous la donne que si vous vous la procurez d'abord. Et vous n'accédez à l'arme que si vraiment vous avez fait des preuves. Donc, il y avait ces bandits d'honneur qui vont se radicaliser de cette manière-là. Après, il y a le moujahid, celui qui ne parle que religion. Il y a le politique. Il y a des hommes politiques qui veulent, eux, gouverner. Donc, ils ont un autre discours. Ils négocient la preuve. Aujourd'hui encore, les islamistes, d'abord, sont au pouvoir, mais en même temps, à chaque fois relance la machine, parce que c'est des hommes politiques, ce qu'ils veulent, c'est gouverner ici-bas, ils n'attendent pas quelque chose dans l'au-delà. Et pour terminer, je ne sais pas si j'ai encore du temps ou pas, c'était pour dire que pour la vie, moi ce que j'ai vu dans en examinant cette violence, en essayant de la comprendre à travers l'humour, ce que disent les gens, les rumeurs, parce que les gens disaient que la boîte politique, mais la boîte politique est hermétique, elle est fermée, et puis qui la rapporte, et puis toi, est-ce qu'on va faire vraiment confiance à ce qui est colporté dans un journal. Officiellement, bien sûr, nous avons des méthodes pour corroborer des choses, etc. Mais on ne peut pas être non plus partout. Mais il y a des dimensions sociales ou sociétales qui peuvent permettre une lecture plus ou moins proche de la réalité. J'avais travaillé beaucoup sur l'humour qui circulait, les rires, les blagues, c'est connu en Algérie, etc. Et c'était symptomatique sur la vision de la société par rapport au pouvoir. Je vous dirais une ou deux, par exemple, c'est le gars qu'on rencontre, et il est arrêté par un premier barrage et manque de peau. Quand on lui demande « Vous êtes de quel côté ?», lui, il va dire « Je suis avec le FLN, c'est quand même des gens qui nous ont libérés de la colonisation, on ne peut pas être contre eux. » Et donc, il est balafré par des islamistes qui lui disent « Nous, on s'est révoltés, toi, tu n'as rien compris. » Et donc, il est balafré, il avance, il rencontre un autre barrage, il croit que c'est toujours des islamistes, on lui pose la même question, il dit « Ah non, les islamistes, c'est quand même des hommes, ils ont de l'honneur, c'est grâce à eux qu'on s'est révolté contre toute cette iniquité, etc. Moi, je les soutiens. » C'était les agents du pouvoir, ils lui disaient « Quand même, nous, on est là, on souffre et on meurt pour toi, toi, tout. » Et donc, il est balafré, donc il tombe dans les pommes, on le ramène à l'hôpital. Et là, le gars qui soigne, le chirurgien, dit à l'assistante, celui-là, c'est pas très grave, mais je peux pas coudre les deux, parce qu'il y a les pénuries, pas de fil. Et donc, il dit, je couds un seul côté, soit la droite, soit la gauche. Et le gars, un peu dans les vapes, mais il entend ça, il dit, s'il vous plaît, vous commencez par là. Parce que je ne sais pas parler, quoi. Et ça, par exemple, c'est simple, ça fait rire, mais en même temps, c'est vraiment la situation en Algérie. C'est la situation, on ne sait pas quel discours tenir. Tout le monde est bon, mais en même temps, tout le monde peut devenir méchant, etc. Ou alors, quand il y avait le couvre-feu, c'était à 11h. Et à 11h, tout se fermait. Il fallait être chez soi, à Alger. Et le gars, il est 11h moins 10, il passe devant un barrage. Et bien, le barrage l'arrête. Et après, le gars parle avec lui 5 minutes, il le relâche. Et l'autre, qui était l'autre flic, le deuxième, le voit et il tire. Et parce qu'ils étaient autorisés à tirer à partir de 11h. Il tire, il le tue. Et son gars, le collègue lui dit, mais ça va pas, il est encore moins 10. Il dit, oui, mais je le connais, c'est mon voisin, il n'arrivera jamais avant 11h. Alors, ça, c'est important sur la bêtise de par rapport à l'État, mais c'est par rapport aussi, même le voisin, c'est-à-dire il n'y a plus de voisin, il n'y a plus d'amis. Tout était rentré dans une sorte de chaos, de drame, où il n'y avait plus les repères traditionnels n'existaient plus. Et il y avait quelques personnes qui étaient plus ou moins honnêtes, mais qui appliquaient la loi à la lettre, et puis les autres aussi. Bref. Et il y a plein de blagues qui circulaient sur les présidents, en décrivant leurs époques, chacun son époque. Avec tel, on a fait ça, avec tel, celui qui n'a pas habité avec Bembella n'habitera jamais. Parce que c'est la période des biens vacants. Celui qui n'a pas étudié avec Boumediene n'étudiera jamais, parce que c'est la réforme de l'enseignement. Celui qui n'a pas volé avec Chadi ne volera jamais. Et celui qui s'est pas marié avec Boudiaf ne se mariera pas jamais, parce que c'était l'époque des marches mixtes et tout. Et puis, il y a celui qui n'est pas mort sous Erwan ne mourra jamais, parce que la population résumée dans des petits romans comme ça, humoristiques, résumée les célestes. Alors moi, j'étais à l'écoute de ça, par exemple. C'est vraiment un matériau foisonnant pour, pas le décrypter, mais pour indiqué des directions où il fallait être attentif. J'avais beaucoup suivi aussi, j'ai perdu des amis, mais j'avais suivi les enterrements et ce que disaient les gens. Et c'est là où j'ai compris ce que ça veut dire tuer. Au-delà de supprimer quelqu'un, c'est quand un ami m'a dit, écoute, je viens d'un enterrement, on a tué mon cousin, mais pas grave. Il est mort, il avait sa position politique, il avait un peu vécu, mais c'est les terroristes ont exigé qu'aucune femme ne vienne, et celui qui vient pour manger le couscous sera tué. Il n'y a que la famille qui a fait le couscous, les gens ne sont pas venus. Comme le couscous, est symboliquement, c'est ce qu'on appelle le repas de la tombe, du premier jour, c'est très important. Ils ne sont pas venus. Il m'a dit, on a dû le donner au chien. Et ça, il était malade. Lui était un gars de gauche. Donner le couscous symboliquement très fort, parce qu'il a un compagne, c'est le repas de la tombe, la compagne dans sa tombe, il est donné au chien, il ne fait plus partie des humains. Etc. Donc je commençais à comprendre ce que ça voulait dire déterrer quelqu'un de sa tombe, le poser à côté et le découper. Il n'avait pas droit à un repos. Il n'avait pas droit à un terme. Il n'est plus de chez nous. De Razali, qui était un gars de l'Azhar, qui était invité à l'époque par Chadli pour réislamiser la société de manière plus ou moins cadrée. Quand Kateb Yassine est mort, il a dit, c'est un Français. Il n'a qu'à être enterré en France. C'est-à-dire, lui, l'Égyptien, interdit à Kateb Yassine, l'Algérien, d'être enterré en Algérie, etc., etc. Donc, c'est une société qui était rentrée, quand on voit ces actes-là, dans un chaos, bien avant, j'allais dire, de son exaspération par la violence. On avait perdu plein de repères. Et, pour terminer, quand on observe tout ça, ce que je constate, c'est que cette violence, c'est pas qu'on ne veut pas vivre ensemble, c'est que on veut vivre ensemble, mais autrement. Tout le monde, les uns et les autres, avaient proposé des modèles qui n'étaient pas les modèles qui étaient suivis. Et les proposaient de manière pathétique, de manière violente, de manière dramatique, de manière... Mais... Oui, je sais pas, tu ne vas pas être un Algérien, non, tu dois être comme ça. Donc, on va essayer de vivre. Ce qui fait, c'est un échec d'un projet politique, c'est un échec d'une société, d'un projet de société, et c'est la preuve de l'inanité de modèles qui ont été imaginés, fantasmés, au lieu d'être né et d'une réalité accompagnée et mûrie. Voilà.